Bon, ils sont pas là aujourd'hui, il n'y a encore pas d'école de dimanche. Les enfants sont malades, nous pouvons penser à eux. Pour nous, nous allons ouvrir notre Bible au livre de Lévitique, chapitre 23. Lévitique 23. En fait, nous allons passer la plupart du temps ce matin dans l'Exode 12. Mais nous commençons ici dans le livre de Lévitique. Nous sommes donc dans une série d'études sur les cinq sacrifices de l'Ancien Testament et les cinq fêtes religieuses. Nous venons de finir les cinq sacrifices et maintenant nous allons étudier les cinq fêtes religieuses. Les sept fêtes religieuses, excusez-moi. Je parle de cinq, sept fêtes religieuses. Dans Lévitique 23, nous avons un catalogue. Un catalogue, c'est pas un livre, ça n'explique pas tous les détails, mais ça vous donne la liste des choses et un peu l'essentiel. Et c'est ce que fait Lévitique 23, qui énumère les sept fêtes religieuses que les Juifs devaient donc célébrer. Ces sept fêtes sont toutes des préfigurations de notre Seigneur Jésus-Christ et sa mort sur la croix. Dieu a voulu par ces fêtes semer des concepts dans la pensée des Juifs pour que eux, avant que Jésus ne vienne, puissent l'attendre et croire en lui. Et aussi, Dieu, nous, les chrétiens, il nous a donné Lévitique 23, il nous a donné le récit de ces fêtes, afin que nous puissions mieux comprendre toutes les facettes splendides de l'œuvre de Christ. Parce que dans ces fêtes, nous allons voir de différents angles l'œuvre de notre Seigneur. Alors, chacun de ces sept fêtes religieuses, si nous étions juifs dans l'Ancien Testament, pour nous, c'était des jours pour se rassembler, c'était des jours pour célébrer l'Éternel, et c'était des jours pour s'examiner devant l'Éternel. Qui venait aux fêtes religieuses, quand et où? Normalement, tous les juifs devaient venir. Mais il était obligatoire que tous les hommes à partir de 12 ans viennent. Vous pouvez comprendre, dans l'Antiquité, une femme enceinte ne pouvait pas toujours traverser le pays pour arriver à Jérusalem pour faire la fête. Mais au moins tous les hommes à partir de 12 ans. Ils pouvaient célébrer les sept fêtes s'ils venaient trois fois à Jérusalem. Parce que certaines des fêtes étaient collées l'une à l'autre. Donc, les fêtes se passaient dans trois mois. Le premier mois de l'année, le troisième mois de l'année et le septième mois de l'année. Donc, pour nous, fin d'avril, fin de mai, septembre. Les sept fêtes ensemble comptent 19 jours. La première fois que nous rentrons à Jérusalem, si nous sommes juifs, en fin d'avril, nous venons pour trois fêtes qui durent 8 jours collés ensemble. La deuxième fois, en fin mai, nous venons pour une fête qui dure un seul jour. La troisième fois, nous montons à Jérusalem en septembre et là, nous célébrons trois fêtes, qui durent 10 jours. Vous pouvez lire avec moi rapidement. Je vais vous faire un peu rapidement la liste. Lévitique 23, verset 5, la première fête. Le premier mois, le 14 du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Voilà la première fête. Deuxième fête, le verset 6. Et le 15e de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, deuxième fête. À partir de verset 9 et suivant, nous avons la description de la troisième fête qui est la fête donc des prémices. Je ne vais pas lire cette section, mais on va sauter jusqu'au verset 15 où nous avons donc le quatrième fête qui est la Pentecôte. Verset 15, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qu'on dédiera, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. » Et dans d'autres passages de la Bible, on appelle cette fête la Pentecôte. La cinquième fête se trouve au verset 24. Parle aux Israélites, dis-leur le septième mois, donc septembre, le premier du mois, vous aurez un jour férié, rappelé par une clameur, une sainte convocation. Je ne vais pas vous lire tout, mais c'est la fête des trompettes. La clameur, c'est la clameur des trompettes qui sonne pendant toute la journée. Ensuite, au verset 27, le dixième du septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez devant l'Éternel. Et la dernière fête, c'est dans le verset 34, c'est la fête des huttes ou la fête des tabernacles. Et nous lisons, verset 34, « Parle aux Israélites et dis-leur, le 15e jour du 7e de ce 5e mois, ce sera la fête des huttes en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. » Et donc, pendant quelques semaines, nous allons étudier ces différentes fêtes. Et aujourd'hui, nous allons étudier les deux premières fêtes, la fête de la Pâque et la fête des pains sans levain. Pourquoi est-ce qu'on les étudie ensemble? Parce que les deux sont intimement liés et sont institués ensemble par Dieu et doivent être célébrés ensemble. On ne peut pas les séparer. D'accord? Ok, donc tournez avec moi à l'Exode chapitre 12 et nous allons passer le reste de notre temps là. Ça va? Ok. Nous allons prendre le temps de lire Exode 12, les versets 1 à 28, et ensuite nous parlerons de cette fête de la Pâque. Donc, lisez avec moi. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à toute la communauté d'Israël et dites, le dixième de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison. Selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Un chevreau si vous n'avez pas d'agneau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc vous allez garder l'agneau dans la maison 4 jours. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Je vais vous expliquer cette phrase tout à l'heure. On prendra de son sang et l'on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain, voilà le lien très fort, et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai au-dessous de vous. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir. Et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun ouvrage ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour précis que j'aurai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de la communauté d'Israël, que ce soit dans le pays un immigrant ou un autochtone. Vous ne mangerez aucun pain levé. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous mangerez des pains sans levain. Dieu insiste beaucoup, n'est-ce pas, là-dessus. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du petit bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tromperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos fils à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon la parole, vous observerez ce rite. Et lorsque vos fils vous diront « Que signifie pour vous ce rite ?» Vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé les Égyptiens et qu'il a préservé nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna et les Israélites s'en allèrent. Ils firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Le contexte d'Exode 12. Nous sommes juifs. Nous sommes en Égypte depuis 430 ans. Lorsque notre peuple est venu en Égypte, c'était avec la faveur du Pharaon. On était privilégiés. Car un des nôtres, Joseph, était devenu premier ministre d'Égypte et il avait sauvé l'Égypte de la famine. On n'est que quelques douzaines lorsqu'on arrive en Égypte. Mais le pharaon qui aimait Joseph et qui aimait Israël est mort. Et dans le temps, Égypte commence à nous oppresser, à nous rendre carrément esclaves. Esclaves serviles, sous le poids des tâches les plus lourdes. Parce que Pharaon, maintenant, nous sommes 430 ans plus tard. Ce pharaon est en train de construire des grandes villes par la sueur de nos fronts. Nous sommes fouettés, nous sommes battus, nous sommes privés de liberté. Nous avons des concitoyens qui mourront sur le fouet des superviseurs égyptiens. Et nous crions à Dieu de nous délivrer. Dieu nous envoie Moïse et il instruit à Moïse d'annoncer à Pharaon de laisser partir les Israélites. Le Pharaon endurcit son cœur et Dieu commence à juger Égypte. Il envoie 9 plaies terribles, des choses surnaturelles. Des grenouilles qui envahissent le pays, des moustiques qui envahissent et qui piquent les bêtes et les hommes, la grêle qui tombe sur les troupeaux et tue les animaux, la peste qui frappe le pays et rend malade, l'obscurité, en tout cas 9 plaies très dures contre l'Égypte. Mais Pharaon ne laisse pas partir le peuple. C'est incroyable. Son propre peuple souffre cruellement. Mais ce pharaon est comme un Staline ou un Kim Jong-un qui est prêt à laisser souffrir son propre peuple juste pour s'obstiner et avoir ce qu'il veut. C'est terrible. Il y a des rois, des présidents comme ça. Mais Dieu va maintenant envoyer une dernière plaie. Ça va être la mort. Il va frapper de mort tous les premiers-nés des animaux d'Égypte. Et dans chaque maison des Égyptiens, chaque foyer, le premier-né, le garçon ou la fille, va mourir dans une même nuit. Terrible. Et donc, Dieu donne à Israël des instructions pour que eux, ils soient épargnés de la mort lorsque l'ange de la mort traverse dans sa puissance surnaturelle le pays et frappe tous les premiers-nés. Cet événement est tellement grand. C'est un point tournant tellement immense. Que Dieu dit à Israël, vous l'avez lu avec moi, dans le deuxième verset d'Exode 12, que le mois où Dieu va faire ça doit devenir le premier mois dans le calendrier. Il dit ceci, je vais vous le relire, excusez-moi. Il commence en disant, parce que nous sommes en ce mois, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors, nous sommes en quel mois? Nous sommes dans le mois Nisan. Ça, c'est le nom juif du mois. Mais c'est le 7e mois du calendrier juif. Mais Dieu dit à partir de maintenant, on change le calendrier. Le 7e mois devient le premier mois. Ça vous dit quelque chose? Quand mon Seigneur fait son exode à la croix, le 7e jour de la semaine devient le premier jour de la semaine. Ah! Avant, le sabbat, c'était le 7e jour, le samedi, et maintenant, pour nous, c'est le premier jour, le dimanche. Alors, regardons un peu les règles pour célébrer la Pâque. D'abord, chaque famille devait tuer un agneau. Si ta famille est trop petite, vous pouvez partager un agneau avec les voisins d'à côté. Mais il faut que vous preniez l'agneau dans votre maison 4 jours avant. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et il faut que tout le monde tue l'agneau le 14 du mois de Nisan. Et il faut le tuer entre les deux soirs, dit le texte biblique. Alors, c'est une phrase hébraïque qui signifie d'à peu près 15 heures l'après-midi jusqu'à 18 heures. Pourquoi est-ce qu'on dit entre les deux soirs? Parce que c'est le moment où la chaleur commence à diminuer vers 15 heures jusqu'au moment où le soleil se couche. Et dans cette période, on doit immoler donc l'agneau. L'agneau, vous devez le manger tout entier. Vous ne pouvez rien laisser pour le lendemain. Si vous n'arrivez pas à tout manger, vous devez brûler le reste. Et pour le cuisiner, vous ne pouvez pas le bouillir, ça ne peut pas être à demi-cuit, il faut le cuire au feu. Il faut le rôtir. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et il faut le manger en hâte. Vous devez le manger avec les sandales aux pieds et avec le bâton dans la main. Peut-être debout. Comme si vous êtes sur le point de partir rapidement dans une situation critique. Avant de le manger, vous devez prendre un peu de ce sang et toucher, asperger les linteaux et les poteaux de la porte. Car Dieu vous a pourvu ce soir-là pour toute la nation en moyen de salut de l'ange de la mort, mais il n'y a aucune sécurité sauf derrière le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau et le sang de l'agneau seul qui peut vous épargner de la mort. Et donc, dans les générations après, il faut que ce soit célébré, c'est ce même rite, ce même repas avec l'agneau chaque année. Nous lisons dans le verset 24 ceci. Vous observerez cela comme une prescription perpétuelle pour vous et pour vos fils. Donc, une dernière chose, dans les années à venir, lorsque vous célébrez la Pâque, vous qui êtes des bons juifs, vous devez expliquer à vos enfants le sens de cet agneau. Et imaginez ceci, chaque année dans votre famille, à un même jour, vous prenez un agneau dans la maison pendant 4 jours. Et ensuite, vous l'immolez. Vous le mangez, bizarrement, papa a son bâton dans la main. Il ne fait jamais cela. Il a ses sandales sur ses pieds. On le mange avec des herbes amères et comme à la hâte. Il ne faut pas longtemps pour que Jacques demande, « Papa, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça chaque année ?» Et vous devez lui expliquer que c'est comme ça que Dieu nous a délivrés d'Égypte, de l'esclavage et de la mort, de l'ange de la mort. Ça, c'est la Pâque. Maintenant, juste très rapidement, la fête des pains sans levain qui devait suivre. Rappelez-vous, le 14e de Nisan, c'est la Pâque, et le 15e, le lendemain, commence la fête des pains sans levain qui dure 7 jours. Donc, nous lisons le verset 15 dans le chapitre 12. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Alors, sachez que, en tant que juifs, nous avons là maintenant une fête de 7 jours. Le premier jour de la fête, le 7e jour de la fête sont des sabbats. C'est des jours de repos, on ne travaille pas. Les autres jours, on peut faire du travail, mais on ne peut pas manger du pain levé. Dès le premier jour de la fête, nous devons enlever tout le levain de la maison. Si vous n'enlevez pas le levain de votre maison, vous êtes excommunié d'Israël, vous n'êtes jamais plus considéré comme un juif. Alors, nous verrons pourquoi tant de gravité tout à l'heure. Ceci aussi doit être une fête annuelle après. Et les Juifs aujourd'hui ont ajouté un peu quelques traditions qui ne sont pas dans la Bible pour rendre cette célébration plaisante. Comment est-ce qu'ils font aujourd'hui? Aujourd'hui, les Juifs en Israël, les Juifs orthodoxes, le premier jour de la fête sans levain, les filles de la maison entrent dans la maison avec des couteaux tranchants. Elles vont dans tous les recoins de la maison, sur le comptoir de la cuisine, derrière les machines de maman, et elles cherchent tout le levain de la maison. Et elles enlèvent ce levain. Ensuite, papa va entrer dans la maison avec une bougie allumée, avec une plume et avec une cuillère en bois. Mais avant qu'il entre, les enfants de la maison vont cacher des petits bouts de levain un peu partout dans la maison, sous le coussin du canapé, sous le lit, ils vont cacher des morceaux de levain. Le papa entre avec sa bougie, avec sa plume, avec sa cuillère, et il cherche partout pour trouver là où les enfants ont caché le levain. Et chaque fois qu'il trouve du levain, il s'arrête et il dit « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné d'enlever le levain. » Quand papa se fatigue d'essayer de trouver tout le levain parce qu'il ne va jamais tout trouver, il prend tout ce qu'il a trouvé et il met ça dans une serviette qui plie sur les quatre coins et il dit « Toute espèce de levain dans ma demeure que je n'ai pas vue ou enlevée est déclarée nulle et comptée comme la poussière de la terre. » Ah, si seulement les Juifs pouvaient comprendre le sens de cette Pâque et de ces pains sans levain. Donc, le lendemain, la famille commence à manger des biscuits sans levain pendant 7 jours. Ok, nous allons terminer notre message en expliquant comment Jésus-Christ a accompli le symbolisme de ces deux fêtes. Et je commence avec la Pâque. L'agneau de la Pâque est une préfiguration de Jésus-Christ et sa mort sur la croix. L'apôtre Paul nous le dit en 1 Corinthiens chapitre 5 et verset 7. Si vous voulez regarder avec moi, 1 Corinthiens 5, 7. Jésus dit ceci, l'apôtre Paul dit ceci, « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Le Seigneur Jésus-Christ est donc la réalisation de ce qui était symbolisé dans la Pâque. L'agneau de Pâque devait être un mâle. Jésus était un homme, un mâle de l'espèce. Il devait être, l'agneau de la Pâque devait avoir un an, c'est-à-dire un agneau dans toute sa force de jeunesse. Jésus aussi était dans toute sa force de jeunesse lorsqu'il est mort à la croix pour nous. L'agneau de la Pâque devait être sans tache. C'est pour ça qu'il fallait le garder 4 jours dans la maison. Pendant 4 jours, on est tout près de cet agneau, les enfants jouent avec. Et on peut voir s'il boite ou s'il a une tache. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ a été notre sauveur sans péché, sans tache. Un des apôtres qui a vécu 3 ans avec lui, Pierre, dit dans son épître que Jésus était notre agneau sans tache. Sans tâche. L'agneau de la Pâque devait être tué tard dans l'après-midi du 14 du mois de Nisan. Jésus-Christ, vers l'année 30 de notre ère, a été suspendu à une croix le 14e jour du mois de Nisan. Il ne fallait pas qu'un os de l'agneau de la Pâque soit brisé. Exode chapitre 12 et le verset 46 dit ceci. On la mangera dans la maison même, vous n'emporterez pas de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Pourquoi? Nous savons que Jean nous dit dans le 19e chapitre de son évangile ceci. Il nous dit au verset 33, arrivé à Jésus et le voyant déjà mort, les soldats ne lui brisèrent pas les jambes. Il était la coutume des Romains, lorsqu'ils crucifiaient les gens, de passer et de leur briser les jambes vers le coucher du soleil pour que ces gens qui, la plupart du temps, n'étaient pas encore morts, pour qu'ils ne puissent pas se hisser et respirer. Et donc, en brisant les jambes, ils engendraient la mort rapidement. Mais on ne brisera pas un os du Fils de Dieu parce que personne ne va lui ôter la vie. Lui-même cède sa vie par sa propre volonté. Père, je remets mon âme entre tes mains. Et donc, nous avons, comme vous voyez, dans cet agneau, une image parfaite de notre Seigneur qui est l'agneau de Dieu, dit Jean-Baptiste. Cet agneau qui, au lieu de moi, se fait immoler pour que moi, je sois épargné de la mort que méritent mes péchés. Une dernière chose au sujet de l'agneau de la Pâque, et puis je vais juste dire un mot au sujet de la fête des pains sans levain. Dans la Pâque, il ne suffisait pas que l'agneau meure et verse son sang pour que le premier-né soit épargné. Il fallait que l'agneau meure, il fallait qu'il verse son sang, mais il fallait aussi, quoi? Qu'on applique le sang au porteau de la maison. Et de même, le chrétien n'est pas sauvé simplement parce que Christ est mort. Mais vous devez personnellement appliquer son sang à vous par la foi en acceptant ce que le Christ a fait, en y croyant, en vous y réfugiant. Si vous vous réfugiez derrière vos œuvres pour que Dieu vous sauve, derrière d'autres choses, vous ne serez pas sauvé. Vous devez mettre votre confiance dans le Christ qui meurt et qui paie la peine du péché. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez mis votre foi personnellement dans ce sang de l'agneau en disant à Dieu, ô Dieu, ma confiance, mon seul espoir, c'est dans l'agneau qui meurt pour moi. La fête des pains sans levain. Je dirais juste, nous pourrions aussi dire que l'action de manger l'agneau était figuratif. C'était pas seulement d'asperger le sang, mais de manger l'agneau. Et Jésus, quand il parle de sa mort, il parlait de manger la chair et boire le sang du Fils de Dieu. Et il explique que c'est une manière imagée de parler de la foi. Par la foi, nous nourrissons notre âme sur Christ et sur sa mort. Et tout à l'heure, nous allons le faire dans la scène. Nous n'avons pas un sauveur distant. Nous avons un sauveur qui nous satisfait le cœur. Nous sommes nourris et satisfaits par lui et par ce qu'il a fait dans son amour pour nous sur la croix. Et lorsque nous croyons activement et nous pensons à ce qu'il a fait pour nous, ça nourrit l'âme. Maintenant, la fête des pains sans levain. C'est aussi une préfiguration de l'œuvre de Christ, car nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 7 et 8 ceci, vous l'avez aperçu déjà, mais je le relis. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. L'apôtre Paul est en train de nous dire ceci. Les Juifs devaient enlever le levain de leur maison. La réalisation, c'est que Christ, en mourant pour nous, a enlevé l'amour du péché de notre vie. D'accord ? Il dit que le levain représente la méchanceté, la perfidie. Et que maintenant, nous ne sommes pas un pain avec levain, avec méchanceté, avec l'amour du péché. Mais nous sommes une nouvelle pâte. Christ nous a transformés, le cœur est changé par celui qui croit. Et que maintenant, nous devons enlever tous les vestiges, tous les restes donc du levain de la vie ancienne. D'accord ? Et pour vivre une nouvelle vie en Christ. Et nous sommes une nouvelle pâte de sincérité et de vérité, Paul dit. Donc, ça veut dire que nous avons dans ces deux fêtes, la Pâque et le pain sans levain, le fondement de toute la foi et la vie chrétienne. Deux choses. Je vis devant Dieu sur la base d'un agneau immolé pour moi. Toute ma vie, toute ma relation de Dieu dépend d'une chose, un substitut, un autre immolé pour moi, à cause de mes péchés. Deuxième chose, maintenant que je suis sauvé par cet agneau, j'enlève de ma vie tout ce qui reste du péché. Je fuis le mensonge, la convoitise, la haine, l'immoralité. Et je cherche à vivre maintenant comme cette nouvelle pâte, ce pain sans levain. Donc, c'est vraiment génial, n'est-ce pas? Comment Dieu a pris tant de temps à mettre en image, à mettre en concret les fondements de la foi et de la vie chrétienne pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que le Christ a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Nous allons chanter au Seigneur maintenant avant de prendre la scène. Nous allons chanter dans le recueil le numéro 130 sur le mont du Calvaire.
C'était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours cher, elle est gloire et victoire pour moi. et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux le porter. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus, dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix.
Nous aussi, nous sommes menacés par la colère de Dieu qui viendra un jour au jugement dernier. Nous aussi, nous sommes coupables. Et nous méritons la colère de Dieu. Mais nous aussi, nous avons reçu cette offre du salut de Dieu qui a dit, je vous donne un agneau qui va mourir plutôt que vous, si vous mettez votre confiance en lui. Nous venons de chanter, m'appuyant avec foi sur la croix de Jésus. Et dans la scène, c'est ce que nous faisons encore. Nous renouvelons notre foi et en buvant, nous disons au Christ qui nous invite, je m'appuie avec foi sur ta croix.